Cynthia à tous, bon début de semaine. Le week-end a été chargé du côté playoff NBA qui battent leur plein, comme vous le savez. On est avec Shai Mamou pour débriefer ce qui s'est passé ce week-end. On va commencer par un gros point sur les matchs qui se sont joués dans la nuit d'hier. Dimanche, il y avait quatre matchs très importants. On va commencer tout simplement par celui qui a mis fin à une série. Les Phoenix Suns qui ont tout parié sur le court terme, qui ont misé le présent, l'avenir et l'avenir des petits-enfants sur cette saison, se sont donc fait sortir au premier tour, sweeper 4-0 face au Minnesota Timberwolves dans un match, encore une fois, dans lequel on a senti finalement les Wolves en contrôle, même si Phoenix a donné vendu cher sa peau. Shai, t'étais devant le match, bien entendu. Ouais. Qu'est-ce que t'as retenu de cette quatrième victoire de suite des Timberwolves?
C'est assez dingue que malgré notre pessimisme avant en cours de saison et même en début de série, je pensais quand même pas que ça finirait sur un sweep. Je me suis dit, ils vont au moins sur l'orgueil, sur le talent, enfin sur, avec Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, tu te dis, ils vont au moins prendre, enfin qu'ils perdent la série. Moi, je m'y attendais. Je les ai dans mes pronostics, j'ai mis que Minnesota passait, mais 4-0, enfin c'est une catastrophe pour le projet. En tout cas, là, comme il est fait, et en plus, ils ont peu de marge de manœuvre, donc ça, bon, il sera temps bien après de parler des conséquences. Mais Minnesota toujours aussi réjouissant. Anthony Edwards, cette série l'a fait basculer dans le statut des. Alors, on va attendre un peu pour superstar. Il se rapproche des tout premiers tiers parce que il se comporte comme tel. Il joue incroyablement bien là cette nuit. Première mi-temps discrète, la deuxième, il est juste excellent. Il finit avec 40 points, 31 après la pause, je crois.
C'est ça, exactement.
Bah, il a été énorme. Kat a apporté 28 points, c'était bien aussi. Enfin, ils ont. J'espère qu'on va voir ces Wolves-là avec avec la même efficacité, la même sérénité, assurance, et que c'était pas juste parce que c'était les Suns qui étaient au fond du trou et incapables de ne serait-ce que prendre un match dans cette série, parce que ils font vraiment tout bien. Défensivement, c'est vraiment solide. En attaque, c'est bien mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que c'était le point qu'on avait ciblé. Les interrogations tournaient autour de l'attaque, et je les ai trouvés encore, voilà, comme je disais, très très bien. Et petite pensée vite fait pour Chris Finch, qui s'est quand même salement blessé pendant le match en se heurtant à Mike Conley de manière involontaire, et qui s'est quand même bien blessé au genou. C'est la seule petite ombre au tableau, parce que sinon, tout va bien pour les Wolves, qui n'avaient pas gagné une série de playoffs depuis 20 ans quand même.
Ouais, il se blesse à la toute fin en fait. Michael Lee est poussé en touche, il percute le coach qui est coincé un peu entre son joueur, la table de marque et un spectateur. Et visiblement, ça parle de rupture du tendon du
rotulien, je crois. Ouais.
Rotulien, exactement. Ouais. Donc grosse blessure quand même. Ouais. On espère pour lui qu'il pourra être revenu à temps, mais c'est même pas sûr qu'il puisse recoacher rapidement là, vu la sévérité de la blessure. Tu parlais d'Anthony Edwards et des Wolves, effectivement impressionnant quand même, 31 points en deuxième mi-temps. Les Suns l'avait mis un petit peu au défi de scorer, parce que finalement ils ont arrêté de faire des prises à deux en deuxième mi-temps. Il a pris le challenge à bras-le-corps. T'as raison, hein. On en parlait d'ailleurs dans le CQFR de samedi, là on répondait à vos questions. On disait Anthony Edwards, star d'un nouveau genre, star NBA d'un nouveau genre, avec un point d'interrogation. Il est en train quand même de monter dans la hiérarchie NBA. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, effectivement, dans cette équipe des Wolves, alors moi, je m'étais totalement planté, absolument planté sur mes pronostics. Je pensais que les Suns étaient le pire match-up pour cette équipe des Wolves. Je pensais même que les Suns étaient capables de passer face à Minnesota. Complètement trompé. Tout ce qui s'est montré en saison régulière a été totalement invalidé par ces playoffs. Et les Wolves, là, vraiment, j'ai trouvé que c'était impressionnant la manière dont ils ont su s'adapter aux différents plans de jeu qui leur ont été proposés par Phoenix dans ce match. Tu parlais du Big Three. Alors, on peut donner les stats quand même. Kevin Durant qui sort avec des très belles stats, 33 points, 12 sur 17 au tir, 9 rebonds, 5 passes. Devin Booker qui termine avec 49 points à 13 sur 21, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. Tu dis, mais comment, si leurs deux stars sont à ce niveau-là, ils ne peuvent pas aller au bout? Simplement parce que derrière, c'est très faible. J'ai commencé par Bradley Beal, hein, c'est pas pour dire que tout repose sur lui, mais Bradley Beal dans ce match termine avec 9 points à 4 sur 13 au tir, 1 rebond, 2 passes, 6 fautes et des balles perdues catastrophiques sur la fin, parce que le match est encore prenable sur la fin pour Phoenix, et il termine très très mal le match d'un point de vue, ils enchaînent bourde sur bourde. Il y a Beal qui fait 2 fautes, qui perd plusieurs ballons, qui prend sa 6ème, qui sort, et de manière totalement incompréhensible, il reste quelques secondes. Une vingtaine de secondes, je crois, Phoenix prend temps mort, les Wolves prennent temps mort pour faire une remise en jeu. Il y a une remise en jeu, La défense de Phoenix n'est pas du tout prête. Anthony Edwards se retrouve à traverser tout le terrain en coast to coast pour mettre un dunk. C'est juste pas possible à ce niveau, en fait, si tu veux passer un tour. Et derrière, voilà, je le disais, le reste, c'est très faible. 10 points du banc, t'as Nurkic qui fait 9 points, 8 rebonds, 5 passes, bah, c'est ce que t'attends de lui. Royce O'Neal qui fait 6 points. C'est ce qu'on disait l'autre fois, Shai, en fait. Ils se sont tellement saignés pour avoir ces 3 stars que derrière, il n'y a pas suffisamment de joueurs d'impact possible, sachant que voilà, Grayson Allen était toujours blessé, il n'a pas joué ce match-là.
Ouais, c'est symptomatique de pour les Suns. Aucun autre joueur qui atteint la barre des 10 points, même si tes 2 stars sont à du coup, Simon, 72 points E2, c'est ça, du coup, enfin, c'est beaucoup.
Ouais.
Ça, 49 et 33, tu m'as dit, ouais, 33 pour
ouais,
Katie. Mais même, encore une fois, les stats, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est sur le terrain, on voyait que c'était pas vraiment une équipe. C'est triste à dire, mais c'était pas vraiment une équipe. On peut dire que c'est à cause des blessures, du temps qu'ils ont eu pour, enfin, ou du manque de personnel qu'il y a eu pour développer cette cohésion d'équipe qu'on voit chez plein d'autres formations là dans ces playoffs. Quelle qu'en soit la raison, c'est vraiment le pire scénario possible parce qu'il y a rien qui allait. Tu peux même pas te dire. Ah, cette année, il n'y a pas eu un tel, donc l'année prochaine, là, avec cette base-là, c'est parfait. C'est-à-dire que dès le premier tour, tu prends un 4-0, alors que Kevin Durant est là, que Devin Booker est là, que Bradley Beal est là, que tu as un coach qui est censé être expérimenté, qui a déjà gagné un titre. Je suis très inquiet pour après, parce que je ne vois pas comment ils peuvent améliorer ça. KD prend de l'âge. On rentrera en détail plus tard, sans doute, sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont faire et les conséquences de cette élimination, mais c'est assez déplorable,
ouais. Ouais, allez, je finis quand même par saluer le très bon match de Karl-Anthony Towns, 28 points ouais. À 11 sur 17 au tir, 10 rebonds, 3 passes. Certes, il a encore fait 5 fautes, mais il a joué plus que jamais, 39 minutes. Moi, on en parlait dans un CQFR précédent, ouais. Je disais que j'aimais bien quand Towns jouait, mais jouait pas trop. Là aussi, voilà, il était irréprochable. Et une petite stat, parce que tu parlais de l'avenir de Phoenix,
ouais.
Shai, donc Bradley Beal, les Suns lui doivent encore 161 millions de dollars sur les 3 prochaines saisons, et il a une no trade clause. Donc, bon courage pour les
fans. Et encore, t'as raison de le souligner, mais ce serait presque injuste de dire qu'ils sont juste coincés à cause de Bill et que ça ne marche pas à cause de Bill. On avait tous bien aimé leur play-off précédent avec Booker et KD, mais c'est les décisions autour, c'est pas que l'avenue de Bill. Hein, donc, mais t'as raison, c'est effrayant. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Et pour aller dans ton sens sur Karl-Anthony Towns, il fallait que Kat fasse ce match-là parce que Rudy était un peu moins en vue, ouais. Gêné par les fautes. Il a joué que 25 minutes. Donc à l'intérieur, Kat a été excellent et c'est le rôle dans lequel on l'aime bien.
Ouais. Ouais, et ben on va attendre de suivre ce qui se passe pour le coach Chris Finch qui a vraiment fait de l'excellent boulot cette saison.
Ouais.
Allez, je te propose qu'on parte sur l'autre match qui était. On s'est demandé si on n'allait pas assister à un match historique, à un comeback historique. C'était le troisième match, non, quatrième match pardon, de la série Clippers-Dallas. Dallas qui était au fond du trou, qui était mené de 31 points en première mi-temps, si je ne me trompe pas, et qui a réussi à monter quand même un comeback incroyable. Victoire 116-111 au bout du compte des Clippers, mais ça s'est joué sur la fin. Avec notamment un Kyrie Irving incroyable en deuxième mi-temps qui a vraiment mis l'équipe de Dallas sur ses épaules. Je te cède la parole, Shai, et puis après on peut échanger comme d'habitude.
Eh ben, je suis en train de me demander si il ferait pas mieux de demander à Kawhi Leonard de partir en vacances et de se reposer, et de bien se soigner et de les laisser faire comme ils peuvent parce que ça fait 2 matchs sans lui et 2 matchs où il gagne. Il y a pas du coup cette espèce de lumière mise sur lui quoi qu'il arrive parce qu'on a tous vu qu'il était en difficulté sur les matchs qu'il a joué la dernière fois et Paul George et James Harden ensemble, écoute, c'est impressionnant, ça joue vraiment bien. Ils étaient très bons sur la période où les Clippers se sont baladés et ont pris 31 points d'avance. Ils ont été très bons après le coup de chaud de Kyrie qui a fait passer les Mavs en tête à 2 minutes et quelques de la fin, où on dit ça y est, la dynamique elle est pour les Mavs, ils vont réussir le plus gros comeback. Il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais en plus, c'est un des plus gros comebacks de tous les temps. Si tu gagnes après ça, c'est incroyable.
Je crois qu'ils auraient égalé le plus gros comeback de tous les temps. Je crois que c'était 31 points, justement.
Ouais, bah, tu vois, ça aurait été incroyable. Et au moment où tu te dis les Clippers sont plus back-terre, c'est une défaite dont on va te parler de longtemps parce que le match était plus que prenable. Bah, Paul George, James Harden sont relayés. Paul George met un 3 points incroyable dans le corner à un moment techniquement somptueux. Très bien joué aussi dans le playmaking et défensivement les deux et l'équipe au global dans ce money time ont été ça a été vraiment performant et ça a permis de battre des Mavs qui, je vais pas encore faire l'oiseau de mauvaise augure, mais quand je prends le match de Luka, par exemple, qui finit en triple-double, hein, même en étant maladroit, son genou, ça m'inquiète un peu, il est en souffrance, il était incertain avant le match. Sur les absents, que c'est compliqué, j'ai un peu peur, j'espère que ça va pas être trop compliqué pour lui, parce qu'il faut quand même que Luka soit là pour que les Mavs aillent au bout dans cette série. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que c'est un match un peu fou et que cette série elle est un peu folle. Les matchs sont un peu décousus. On sait jamais en cours de match comment ça va se terminer. Et je suis impressionné par les Clippers quand même. Mentalement, tu n'as pas Kawhi Leonard. Tu dilapides 31 points d'avance et tu arrives quand même à t'en sortir. Ils m'ont impressionné quand même.
Ouais, mais je pense que moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir pas mal de regrets du côté de Dallas quand ils vont revoir le match à la vidéo, parce qu'en fait sur la fin, après avoir monté leur comeback, ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'ils reviennent à moins 2 et derrière ils ont un passage de 2 minutes où ils laissent vraiment les Clippers jouer leur jeu, où la défense vraiment baisse d'un cran, et notamment sur James Harden a été excellent. Pour moi c'est le difference maker sur la fin, parce que Paul George fait une première mi-temps fantastique, il est incroyable en première mi-temps, il met 30 points si je ne me trompe pas, il a un troisième quart-temps vraiment compliqué par contre au moment où Dallas revient, et celui qui tient la baraque, faut le saluer, c'est James Harden vraiment sur la fin qui fait les bons choix. Et en fait ce que j'ai pas vraiment compris en fait dans la défense, c'est que dans le passage dont je te parle là, quand les Clippers finalement refont un écart, je crois qu'ils reviennent à plus 9, voire même à plus 11, si je me trompe pas. Il laisse James Harden à nouveau aller sur sa main gauche sur le drive. Et ça, j'ai du mal à le comprendre, en fait. Parce que moi, j'aimais plutôt l'option qui avait été prise par Dallas, d'essayer de le couper du tir à 3 points, quitte à lui ouvrir un couloir pour aller vers le cercle, sachant qu'il n'a pas toujours la capacité de finir comme il le faisait avant. Mais par contre, si tu le laisses aller sur sa main gauche et prendre son flotteur, c'est vraiment lui simplifier la vie, en fait. Parce que c'est vrai, il est extraordinaire dans ce registre. Hein. C'est, voilà, je dis pas que c'est simple de défendre sur James Harden, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu joué là, quand même, l'issue de ce match. Tu parlais du match de Luka Doncic, je vais vous donner quelques stats. Kyrie Irving, donc, il finit quand même avec 40 points, à 14 sur 25 au tir, 7 rebonds, 5 passes, 7 balles perdues aussi. Lui aussi, il a perdu des ballons à des moments clés. Luka qui finit en triple-double, 29 points, 10 rebonds, 10 passes, 10 sur 24 au tir. Et de l'autre côté, donc Paul George qui finit à 33 points, 6 rebonds, 8 passes. Il était à 30, je crois, à la mi-temps. Donc il a vraiment été. Enfin, il a fait une première mi-temps incandescente. Après, il a un peu disparu dans le troisième. Mais par contre, James Harden, 33 points à 12 sur 17, 6 rebonds, 7 passes. Et vraiment, pour moi, ça a été le différence. Voilà, c'est lui qui a fait la différence dans ce match. Mais je pense que Dallas, en regardant la vidéo, ils peuvent avoir pas mal de regrets, parce qu'il y avait moyen d'aller le chercher, même après avoir été mené autant au score.
Ouais, clairement, c'est ce que devant le match, je me disais, ça y est, à partir du moment où Kyrie il est fait, c'est ça, il repasse devant à deux et quelques, il met un panier un peu acrobatique, là je me suis dit, bon, c'est terminé, les Clippers, ils sont au fond du saut, et Paul George, l'essor de ça, avec ça veut dire que c'est son seul panier en deuxième mi-temps, sur le coup, je m'en suis pas aperçu, mais s'il finit à 33 points, ça doit être, il l'a vraiment mis au bon moment, il a mis des lancers quand même, il a été sur la ligne. Bon, il en a raté aussi, mais Harden et George ont réussi à aller sur la ligne aussi en fin de match, et ça a aussi fait la différence, je trouve. Mais ouais, reste sur la bonne influence, fallait réussir à aller gagner à Dallas comme ça dans ce contexte. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans la suite de la série, parce qu'elle est vraiment incertaine. Les deux équipes ont été capables de gagner à l'extérieur. Les deux équipes ont soit des absents, soit des joueurs qui tirent un peu la langue physiquement. Donc, c'est totalement le genre de série qui peut finir en 7 et donner du grand spectacle jusqu'au bout.
Ouais, carrément. Allez, on va passer, je te propose, sur l'autre match qui a été serré à le temps jusqu'au bout.
Ah ouais.
La belle victoire de New York, qui jouait à domicile, même si c'était à Philadelphie, visiblement, vu l'ambiance dans la salle. Victoire 97-92 pour les Knicks, donc qui reprennent... pour les Knicks, voilà, tout simplement, qui creusent l'écart dans la série face à Philly, qui mène maintenant 3-1. Jalen Brunson, incroyable, historique, 47 points, 4 rebonds, 10 passes. On en parlait, Shai, quand on débriefait le match précédent, on disait que Jalen Brunson avait fait un bon match, mais on a l'impression que dans le mid-range, on ne savait pas s'il était fatigué, si c'était la défense de Philly qui le gênait. Il n'avait pas l'efficacité qu'il a d'habitude. Là, il était incroyable.
Il était énorme. 47 points, record pour un joueur des Knicks en play-off. 10 passes, une seule perte de balle. Enfin, il a fait le match qu'on attendait de lui. T'as raison, on le rappelait, on le trouvait un tout petit peu en dedans, même au-delà des statistiques, parce qu'encore une fois, les stats ne disent pas tout sur la vérité d'un match. Là, il a été exceptionnel dans un match qui était hyper âpre encore, hyper accroché. Il a été fantastique. Je trouve que, enfin, c'est fou que le match, tu le disais, le match était à Philadelphie et on a entendu des MVP quand il était chaud. Et je trouve ça fou cette histoire d'ambiance. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est le premier truc qu'Embiid a dit après le match. Il était dégoûté. Il a dit c'est pas normal qu'il y ait autant de fans des Knicks, en tout cas aussi bruyants dans une salle comme Philadelphie. Les Sixers normalement, et Philadelphie, c'est une ville et une fanbase qui est très très bruyante normalement, très intense. Et là, voir les fans des Knicks, tu vois, ça marque aussi. On est à une période particulière pour les Knicks, je trouve, où, en termes d'enthousiasme et d'engagement de la part de leurs fans. Ils sentent qu'il se passe quelque chose quand même avec cette équipe au niveau de l'identité, de ce qu'elle apporte, parce que c'est fou de voir autant de bruit, autant de supporting pour les Knicks. Et sur le match en lui-même, c'est encore été, ça s'est un peu pouillé parfois encore. Il y a eu des gestes limite, on va dire. Notre ami Joel Embiid a fait goûter son coude à Jalen Brunson notamment. Il n'y a pas eu que ça, hein. je ne vais pas cibler sur Embiid, c'est un match qui a été dur et accroché de partout. J'ai bien aimé le match d'OG Anunoby aussi, parce que Brunson ne peut pas jouer tout seul. On parlait des Suns qui jouaient de manière isolée avec leur star. Ça ne peut pas être que Brunson qui cartonne et les autres qui font rien. Anunoby fait 16 points, 14 rebonds, 3 contre, et je l'ai trouvé ultra précieux, ultra bon défensivement, parce que c'est encore un match où les Knicks ont limité les Sixers sous les 100 points, ce qui n'est pas anodin non plus. Et bon, j'ai l'impression que là, les Knicks foncent vers la qualification et ce sera au final assez logique et mérité.
Ouais, c'est clair. On va saluer aussi la performance de Josh Hart qui finit avec 0 sur 7 au tir, mais 17 rebonds et, 5 passes. Ouais. Match énorme. Tu sais, tu parlais de l'engouement des fans des Knicks pour cette équipe. Ce qui est, en fait, je pense que au-delà du niveau de l'équipe, ce qui se joue, c'est que je pense que c'est sans doute l'équipe qui, dans son ADN, ressemble plus aux équipes des Knicks qui ont été adorées par la ville, que ce soit celles qui ont été championnes dans les années 70 ou les dernières à avoir vraiment brillé en playoff dans les années 90. Ouais. Une dureté. Et tu parles d'OG Anunoby. Ce que je trouve intéressant aussi, on en a déjà parlé avec les mecs de Villanova, etc., c'est que au-delà du talent que les Knicks sont allés chercher, ils ont aussi cherché des joueurs qui correspondraient à cet ADN, à cet état d'esprit de dureté, de joueurs physiques. Et finalement, je pense que c'est pour ça que tout prend corps de cette manière. Tu parlais de Joel Embiid qui finit avec 27 points, 10 rebonds et 6 passes. Il a eu un impact énorme sur le match. Là où Philly a pris l'eau, c'est quand il s'est retrouvé sur le banc. Il a joué l'intégralité de la deuxième mi-temps. Mais par contre, j'ai une stat. Malgré tout, même s'il a été très bon, c'est qu'il est rentré dans un club assez fermé. C'est sur les 25 dernières années, c'est le quatrième joueur simplement à avoir fini un match, enfin avoir plusieurs matchs dans une même série où il aura fini à 0 sur 5 ou pire dans le quatrième carton. Je te donne les trois autres lauréats. Ouais. Edo Turkoglu en 2009 contre les Celtics.
Ah mon gars Edo.
Eh bah oui. Paul George en 2018 contre le Jazz et CJ McCollum en 2019 contre les Warriors. Donc voilà, encore une fois, bon, ça veut pas tout dire. Il n'est pas à 100% de ses capacités, on le sait. Quand il est sur le terrain, il est très bon, mais je pense qu'à la fin, il était archi cuit. Voilà, les Sixers ont manqué de ressources.
Même quand l'équipe allait bien, en début de saison, vraiment très bien, la petite interrogation, c'était la profondeur, les autres joueurs qu'ils pouvaient apporter. Alors, ils ont recruté en cours de saison, mais là on le voit, si tu as avec un Embiid à 100%, tu peux te dire qu'ils sont capables au moins de passer un premier tour, hein, mais. Et là, ils sont cuits. Tu l'as dit à la fin, entre les problèmes physiques, la fatigue. Faut rappeler qu'Embiid, c'est son combienième match depuis qu'il est revenu de blessure. C'est plus le problème qu'il a, l'histoire de paralysie faciale. Enfin, il y a plein de trucs. La tension médiatique un peu négative. Enfin, c'est compliqué pour Philadelphie et New York est vraiment pas le bon adversaire pour une équipe qui est un peu juste. On l'a dit plein de fois, mais c'est l'identité de cette équipe. C'est de faire un combat à chaque fois, de jamais laisser de panier facile. Je disais un très bon article sur Tom Thibodeau ce week-end qui était sur The Ringer. J'ai plus le nom du journaliste, mais je retrouverai ça. Et c'est vraiment, le côté grind, c'est vraiment une religion quoi, chez Thibodeau et tous les joueurs qui sont là. Tu parles de Josh Hart, on parle d'Anunoby, tout ça, ils sont tous OK avec ça, avec cette philosophie-là. Il n'y a pas un seul qui se dit je préférerais un style où l'individu brille plus. Et ça n'empêche pas que Jalen Brunson fasse des stats exceptionnelles, hein, mais ils sont tous raccord et c'est ce que je trouve enthousiasmant avec cette équipe-là. C'est Moi, je les ai mis en finale de conférence et au début, je me suis dit que je m'étais peut-être un peu hypé rapidement parce que c'est New York, que j'aime bien, qu'ils étaient sur une bonne dynamique, mais ils ont le profil de l'équipe que tu n'as vraiment pas envie de jouer. C'est horrible de jouer une équipe comme ça qui est tout le temps à fond, qui laisse rien passer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire d'ego. Enfin, je continue d'être très enthousiaste pour eux. On verra jusqu'où ça ira, mais franchement, ça fait plaisir de revoir les Knicks comme ça et pas juste. Oui, bon, c'est pas mal, mais on sait qu'ils passeront qu'un tour. Et il y a de vrais espoirs. Et ça, bon, il faudra après prendre du recul sur ce qui a été fait ces dernières années, parce qu'on a tellement été habitué à de la médiocrité dans la gestion des Knicks que ce qu'on fait Leon Rose et tous les gens qui travaillent avec lui, et Thibodeau, qui mérite aussi du coup quand même d'être félicité, c'est impressionnant et ça fait vraiment plaisir.
Ouais, carrément. Allez, série à suivre. On va finir avec le dernier match qu'il y a eu hier. Un autre énorme upset est en train de se mettre en place dans la conférence Est. Les Pacers qui ont donc pris l'avantage, 3 victoires, c'est ça, je ne me trompe pas ? Non, 2-1. Ils mènent 3 victoires à 1, face aux Milwaukee Bucks en s'imposant 126-113. Pour le contexte, donc les Bucks qui étaient privés à la fois de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard et qui ont perdu Bobby Portis quasiment dès le début de match, exclu après deux fautes techniques complètement débiles. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Trouver le moyen d'aller s'embrouiller avec Neymar et de se faire exclure. Malgré tout, alors je ne sais pas quel a été ton sentiment, Shai, mais j'ai trouvé que Milwaukee avait très bien joué, notamment en première mi-temps, surtout vu les circonstances. Au bout du compte, c'était tout simplement trop dur pour les Bucks.
Ouais, bon, ça reste une équipe avec une base qui a gagné le titre, il y a une sorte de culture à Milwaukee aussi, donc on sait que ce ne sera pas désastreux dans le jeu. Sauf que là, tu l'as dit, ils sont trop justes. Il y a une espèce de poisse entre les blessures. Bon, Bobby Portis, c'est pas vraiment de la poisse. On sait que le garçon peut être assez intense, un peu trop sur le terrain. Mais je pensais quand même que... Alors, je pensais pas que Damien Lillard serait blessé en cours de série. J'imaginais les Bucks quand même, en attendant le retour de Giannis, suffisamment performant avec la paire Lillard-Middleton, tout en me disant que ce serait compliqué, Indiana, avec l'enthousiasme, le fait de découvrir les playoffs, de jouer à fond sans complexe. Là, c'est le mauvais scénario pour les Bucks. Hein. Ils tombent contre une équipe qui a bien analysé leurs faiblesses. Je trouve que Carlisle a fait du très bon travail en insistant sur Miles Turner, qui fait un super match. Miles Turner qui, tous les ans depuis 5 ans, on doit dire, tout le monde disait qu'il devait être tradé, que c'était la dernière année qu'il était là, que c'était lui la marge, le levier pour faire progresser l'équipe. Et là, pour moi, c'est lui qui leur fait gagner le match, ou en tout cas la manière dont il a été utilisé. 29 points, 9 rebonds pour Miles Turner, plus bonne activité défensive comme il sait le faire.
7 sur 9 à 3 points.
Ça... Attention, il va se lancer dans un concours avec 4 pour dire « Je suis le meilleur big man shooter de l'histoire de la NBA prochainement.
Ben » Là, il peut, parce que les Pacers, effectivement, aussi établi un record de franchise, je crois, pour le nombre de tirs à 3 points marqués dans un match. Ouais. Ils finissent à 22 sur 43. C'était une pluie de 3 points. C'était ça qui était un petit peu dur pour Milwaukee. C'est même s'ils jouaient bien, t'as l'impression que chaque fois qu'ils étaient sur le point de revenir vraiment et se prenaient un 3 points, c'était un peu l'enfer. Du côté des Bucks, faut saluer la super belle performance de Brook Lopez. C'est mon plus qu'à la hauteur, 27 points à 12 sur 18 au tir, 9 rebonds. Voilà, Chris Middleton finit avec 25, 10 et 5. Malik Beasley finit avec 20 points. Encore une fois, j'ai trouvé que Milwaukee avait vraiment vendu chèrement sa peau. C'est juste que c'était pas possible face à une équipe d'épaisseur. Le début, il est quand même un peu incertain. Tu vois toute la jeunesse. Et puis à un moment, le rythme imposé par cette équipe d'Indiana a juste fait éclater.
Le troisième quart-temps, ils ont vraiment accéléré. Ils ont pris le dessus. À Liberton, qui avait été très passeur sur les matchs précédents, là, il finit avec 24 points. Il a participé à la fête à 3 points aussi. Il en a mis 5. Enfin, c'est une équipe qui se connaît bien, qui a l'enthousiasme de la jeunesse et de l'inexpérience, avec un coach très expérimenté pour le coup. Et pour Milwaukee, c'est pas possible. Enfin, je sais pas si je pense même pas que Lillard et Antetokounmpo vont revenir au prochain match vu le type de blessure. Donc c'est tu disais en ouverture que c'était un upset. Oui, c'est un upset par rapport au statut des deux équipes et leur effectif quand elles sont au complet, mais. Et c'est terriblement logique, sans Antetokounmpo, sans Lillard, que ça finisse comme ça, malheureusement pour les Bucks. Et les Pacers sont à une victoire de passer un tour pour la première fois depuis 10 ans aussi. On parlait des Wolves 20 ans, là les Pacers 10 ans, donc c'est bien aussi qu'on voit des nouvelles équipes, entre guillemets, ou des anciennes équipes revenir un peu sur le devant de la scène, ou au moins passer quelques tours et pas juste faire de la figuration en playoff. Si c'est le cas, 3-1, ça a déjà été remonté, Doc Rivers en sait quelque chose, peut-être que Non, mais peut-être que du coup, ce sera lui s'il veut réécrire un peu sa légende en la matière. Ça peut être pas mal d'être celui qui renverse un 3-1, c'est pas impossible, hein.
Ah, pardon, parce que du coup j'imaginais Doc Rivers était dans le vestiaire avant le match, commençant son speech en disant non mais un 3-1 ça peut être remonté, faites-moi confiance, je sais que c'est faisable. Ouais, les Pacers ils finissent avec 6 joueurs à 13 points ou plus. On l'avait dit, cette équipe, si elle peut scorer et qu'elle s'enflamme, c'est plus possible de le rattraper. Et puis, toujours au niveau des stats, TJ McConnell, ultra pression en sortie de banc. Il finit avec 8 petits points, entre guillemets, mais 8 passes décisives. Il a été excellent. Voilà, tout a fonctionné pour les Pacers.
Ouais, génial. McConnell, c'est une pépite. Il serait bon partout, je pense, dans une équipe encore plus forte et ambitieuse. Quand on avait fait des espèces de trophées décalés avec Antoine dans une session, on avait... Il était dans nos finalistes pour le joueur qui joue moins de 30 minutes par match, mais qui est le MVP à moins de 30 minutes par match. Je crois qu'on l'avait mis quasiment premier, tellement il est précieux, McConnell.
Ouais, mais tout à l'heure, alors ça, on va pas y revenir là, mais tout à l'heure, on parlait de l'avenir des Bucks, des Suns, pardon, bah les Bucks qui sont quand même à une défaite de sortir pour une deuxième année de suite au premier tour. Donc c'est quand même, ce serait quand même upset quoi qu'il arrive. Il y aura des. Et puis. Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus, hein, parce qu'a priori, ils ne vont pas virer le coach. Donc, ouais, le coach, je ne dis pas que tout est la faute de Doc Rivers, ce n'est pas ça que je veux dire, mais je ne vois pas trop ce sur quoi ils pourront s'ajuster. Allez, on va faire peut-être très vite un petit bilan. Donc ça, des 4 autres séries, il y a eu d'autres matchs pendant le week-end. Les Lakers, qui, quoi qu'il arrive, auront évité le sweep, ils ont réussi à prendre le match 4. Et donc, les Nuggets qui jouent ce soir, le match 5 sera ce soir, mène 3-1. Les Lakers ont réussi à s'imposer à domicile. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire sur cette série, Shai.
C'est bien que les Lakers aient évité le sweep. Ils ont eu ce mérite-là. C'est plus représentatif des matchs qu'il y a eu là depuis l'année dernière. Cette année, c'est des matchs qui ont été plus accrochés que ce qu'il n'y paraît. Mais je vois pas l'histoire s'écrire et les Lakers remonter, renverser un 3-0. LeBron a été très bon, et que les Lakers eux-mêmes ont fait une bonne prestation générale, mais je pense que ça suffira pas. Les Nuggets sont trop en contrôle, à mon avis.
Ouais, j'ai trouvé les Nuggets hyper léthargiques, vraiment sur ce match-là. J'ai l'impression qu'ils s'ennuyaient, et puis finalement, voilà, les Lakers ont réussi à le prendre. Autre série, donc Celtics Heat, la série repartait à Miami. Les Boston qui s'est imposé à Miami 2-1. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match?
Bah, que Boston a réajusté son niveau d'intensité, déjà, défensive, le côté physique, l'énergie qui avait été en faveur du Heat sur le match précédent. Cette fois, les Celtics ont réglé la mire. Ils ont limité Miami à 84 points. C'est comme ça que ça devrait se passer normalement, vu le contexte, vu l'absence de Jimmy Butler, vu la supériorité qu'on a vue sur toute la saison. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont compris et que maintenant, il n'y aura plus d'accident, entre guillemets, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, oui, que ça a été peut-être un déclic, la défaite précédente, et que là, normalement, Boston s'est mis sur la bonne voie. Même si on peut évidemment pas enterrer le Heat et Spoelstra pour trouver des solutions pour continuer que cette série soit intéressante.
Ouais, parce que c'est vrai qu'autant l'adresse du Heat avait été insolente au match précédent, autant là, ils n'ont pas eu du tout d'adresse à 3 points, même parfois sur des tirs assez ouverts, notamment au début de match. Donc voilà, je pense que le Heat préférait jouer tous ses matchs au TD Garden pour le reste de la, la série. Ils sont meilleurs face au public de Boston. Une autre série qui est partie pour tourner au sweep potentiellement, c'est celle qui oppose le Thunder aux Pelicans. Ouais. Donc le Thunder qui a aussi pris le troisième match de manière large et dominatrice et qui mène 3-0. Donc c'est 3 séries dont on vient de parler, il y a un match ce soir, donc voilà, ça pourrait être fini dès ce soir pour les Pelicans qui sont pris une avoinée par chaque derrière en cabine de commentaires.
Ouais, il a dit qu'il ne méritait pas d'aller à Cancun, mais à je ne sais plus où, en vacances,
Gavelston, je crois.
<C'est ça. rire> Ouais, mais les Pelicans. Bon, OKC a encore effectué une prestation mature, a exploité les pertes de balles, a sanctionné quand il fallait, un espèce de run à 14-0 en début de première mi-temps aussi, en fin de première mi-temps, pardon. Cette équipe est sereine. Je l'avais dit sur le premier match était poussif et maintenant ça déroule et les Pelicans sont pas les armes. Enfin, il y a pas Zion comme facteur un peu X qui est impossible à maîtriser. Je pense qu'ils sont trop justes pour. Ils pourront peut-être prendre un match, hein, c'est pas impossible. Ils ont quand même ils ont l'effectif pour, mais je non, OKC est trop 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 solide.
Ouais, et allez, et dernier match, donc dernière série, Orlando Cavs. Orlando qui a à nouveau pris le deuxième, qui a pris ce game 4, donc pour équipe, pour, ouais, j'ai du mal ce matin, excusez-moi, pour revenir à égalité dans la série, deux partout, deux victoires partout, ouais. Et, mais de manière hyper dominatrice, une fois encore, dans une ambiance de folie, là, tu sens qu'Orlando, ils attendaient tellement ça depuis longtemps, enfin, c'est assez kiffant, parce que même derrière l'écran, on ressent l'ambiance. Ouais. Défense impressionnante du Magic, avec les stars de Cleveland, qui n'arrivent pas du tout à sortir de le type de performance dont l'équipe a besoin.
Ouais, Mitchell n'a pas mis un tir en deuxième mi-temps. Hein. Alors, rien que ça indique. Alors, c'est aussi dû à l'énorme prestation défensive du Magic en deuxième.
Ouais.
Parce que le Magic était mené en première mi-temps. Ils avaient quasiment 10 points de retard. Et puis derrière, ils ont augmenté le niveau de pression défensive. Offensivement, ça a aussi ça s'est libéré. Franz Wagner fait un super match.
Alors que Banchero, 13 rebonds, ouais. 4 passes pour Franz Wagner.
Voilà, super match de Wagner. Alors que Banchero était plutôt discret. Il met même pas
9 points.
9 points, ouais. Mais oui, le Magic, après les premiers matchs difficiles aussi, est aussi bien entré dans cette série. Il n'y a pas eu vraiment de match très, très serré pour l'instant. C'est une série curieuse où il y a toujours une équipe qui se loupe complètement et l'autre qui rayonne. Je pense que le Magic m'a l'air d'avoir retrouvé en tout cas, tu sais, ce qu'on a vu d'eux en saison régulière, notamment sur l'impact défensif et en étant à minima correct en attaque, ce qui n'était pas du tout le cas sur les deux premiers matchs. Et ouais, je les sens plutôt capables d'aller faire quelque chose et peut-être d'aller regagner un match là à Cleveland.
Ouais, donc affaire à suivre, et effectivement, en tout cas, le changement de 5 avec Wendell Carter Jr. dans 5 de départ a vraiment redonné, je trouve, de l'équilibre à cette équipe d'Orlando. Donc ça, ce match-là, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas. Voilà pour les playoffs NBA. Et on voulait finir quand même parce qu'il y a une autre nouvelle importante dans l'histoire du basket, dans la culture du basket, la retraite d'une légende, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Shai?
Ouais, Candace Parker qui a annoncé sa retraite. Alors, c'était pas prévu. Elle avait signé, elle était toujours sous contrat avec Las Vegas. L'année dernière, elle avait donc signé chez l'Aces, mais s'était blessée en cours de saison, donc elle avait pas pu participer au playoff. Alors, elle avait quand même gagné le titre avec ses coéquipières, mais ça, on l'avait pas vu. Et ça ressemblait à une dernière saison potentielle au sein d'une super team. Mais Candace Parker est trop. Souffre trop du pied et s'est dit que c'était le moment peut-être d'arrêter à 38 ans. Et ouais, c'est une légende parce que les gens qui, même sans suivre la WNBA, c'est quand même une des joueuses, je pense, que le grand public identifie. Déjà parce qu'elle était aussi, elle est aussi consultante sur TNT. Excellente consultante d'ailleurs, on l'a dit plein de fois. Et c'est peut-être l'après-carrière qui l'attend si c'est ce qui l'intéresse. Mais oui, c'est une légende parce que c'est peut-être une des joueuses les plus complètes de tous les temps. C'est pas juste une figure médiatique. C'est une joueuse qui a gagné alors 3 titres. Le troisième, les gens l'oublient un peu du coup parce que c'était avec Las Vegas et qu'on l'a pas vu, mais elle a gagné avec les Sparks. C'était la dernière fois que les Sparks étaient un peu, comptaient un peu dans le paysage avec Chicago où c'était une superbe histoire parce qu'elle revenait chez elle, elle gagne le titre direct et c'est une joueuse merveilleuse quoi. On a vu la chance de l'avoir dans le MOOC sur Kobe.
Ouais.
Voilà, moi j'avais adoré. Moi c'est une des interviews que j'ai préféré faire. En dehors du terrain, c'était vraiment, c'est vraiment une fille incroyable et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire sur la suite, par la suite, parce que elle peut absolument tout faire au niveau du basket. La connaissance est dingue. Je sais pas si tu te rappelles sur l'interview qu'on avait faite avec Sandrine Gruda, elle expliquait comment elle coachait, elle discutait, elle décortiquait toutes les tactiques, elle anticipait les tactiques des coachs adverses. Enfin, elle a une mentalité à la fois de coach, d'analyste, de GM, que sais-je, voilà, c'est une fille incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite, que ce soit en NBA, en WNBA ou dans le monde des médias, voilà.
Ouais, c'est clair. Et puis bon, alors c'est toute proportion gardée, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui avait une hype folle depuis toute jeune. Donc c'était pas la hype forcément d'un LeBron parce que le basket féminin était pas suivi de la même manière. Mais voilà, dans le genre, tu sais, les joueurs, les joueuses qui étaient accompagnés d'une hype énorme dès tout jeune et qu'on confirmait à tous les niveaux derrière. Voilà, je pense que c'est quand même un cas d'école.
Elle a été MVP sur sa saison rookie. C'est ce qu'il faut, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un truc qui paraît invraisemblable aujourd'hui, c'est même clair. En WNBA. Hein. C'est-à-dire que là, il y a la hype sur Caitlin Clark, mais je suis prêt à mettre ma maison qu'elle ne sera pas MVP sur sa saison. Alors, vous pouvez enregistrer, hein, si. mais je ne pense pas. Et quand Candace Parker avait réussi à le faire avec les Sparks, c'était incroyable. Et tu as raison, la hype avec Tennessee était énorme et elle a plus que survécu à la hype à l'époque, et sur une carrière du coup qui s'est étendue sur, ça doit être 16 ans si je dis pas de bêtises. Et voilà, magnifique carrière et bon vent à elle.
Exactement. Bah voilà, on va refermer là-dessus notre CQFR du jour. Pour les rendez-vous de la semaine, vous savez, on aura un podcast cet après-midi avec en invité Frédéric Yang. Les CQFR tous les matins, comme d'habitude, pour suivre les playoffs. Et si vous n'avez pas, si vous avez coupé ce week-end, vous avez bien fait déjà. C'est bien de couper une fois de temps en temps, mais si vous voulez vous rattraper. Samedi, on a publié donc le CQFR dans lequel on répond à vos questions, le ce à quoi il fallait répondre, Chat et moi. Et dimanche, hier, donc, il y avait le Hoop Culture avec Pierre Armand dans lequel on est revenu sur les signature moves les plus iconiques de l'histoire de la NBA. Si vous voulez vous faire un petit rattrapage, allez voir sur YouTube ou allez voir sur les plateformes de streaming, vous trouverez tout ça. Nous, en tout cas, on vous souhaite de passer une super journée et on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao.